Bonsoir et bon début de semaine à tous. Fin le 22 juillet dernier du moratoire accordé par le gouvernement aux expatriés pour libérer le secteur du petit commerce en RDC. Quel bilan dressé à ce jour de l'application de cette mesure? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 6 août 2012. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats Jean-Paul Nemoyato, ministre de l'économie et du commerce extérieur. Monsieur le ministre, bonsoir.
Bonsoir madame.
Michel Somoué, directeur général de la Fédération nationale des petites et moyennes entreprises congolaises, FENAPEC. Michel Somoué, bonsoir.
Bonsoir madame.
Et bienvenue Marie Bakoumania, analyste et chef du desk économie du groupe des presses Le Potentiel. Bienvenue, bonsoir.
Bonsoir madame.
Merci parce que vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Venon Abello de Matadi au Bas-Congo. Cette décision est impopulaire parce qu'elle posera un sérieux problème dans l'applicabilité, surtout que chaque expatrié a son général protecteur. Jude Kitoko Claudis, je salue l'initiative qu'a pris le ministre de l'économie et je pense qu'il a eu le temps d'évaluer les impacts positifs et négatifs qui peuvent découler de cette mesure. Merci de nous suivre à Kananga, au Kassai Occidental sur la 93.0 et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
L'ultimatum lancé par le ministère de l'économie aux expatriés pour cesser d'exercer le petit commerce en RDC a expiré depuis le 22 juillet dernier. À cette occasion, Jean-Paul Nemoyato, ministre de l'économie et du commerce extérieur, a tenu mercredi 25 juillet dernier à Kinshasa une réunion d'évaluation de la mesure interdisant aux expatriés de pratiquer le petit commerce. Les différents syndicats des vendeurs ont relevé que cette mesure n'était pas respectée et se sont interrogés sur les sanctions que prendrait le gouvernement contre les récalcitrants après expiration de son ultimatum aux expatriés. Mais en cachette, les expatriés continuent à pratiquer le commerce des détails. Quelle est la réalité sur terrain par rapport à l'application de cette mesure? Suivez ce reportage d'Agathe Pona et Lema.
Sur l'avenue du commerce, au grand marché de Kinshasa, les magasins de vente d'articles divers appartenant aux Indo-Pakistanais et même aux Libanais affichent uniquement des prix pour des produits en douzaine, demi-douzaine ou quart de douzaine. Toutefois, si un client insiste pour acheter un seul produit dans ce même magasin, l'article lui sera vendu, mais sans facture.
Ils acceptent de vendre. Moi, par exemple, la semaine passée, je voulais acheter un article. Ils ne le vendaient que par groupe de 3 pièces. Moi, j'ai donné l'argent pour 1 pièce. Ils ont accepté, mais ils ne m'ont pas donné des factures.
Dans les magasins de vente de tissus tenus par les expatriés, la mesure ne semble pas du tout être respectée, car les prix sont affichés par unité de mètre, ce qui pousse ce client à s'interroger.
C'est vrai qu'ils peuvent vendre du rouleau de tissu, mais comment allons-nous faire pour acheter 1 mètre de tissu par exemple? Il faut qu'il y ait suffisamment de détaillants de tissus pour nous faciliter la tâche.
Notons que le moratoire accordé aux expatriés de ne plus pratiquer le petit commerce en RDC a expiré depuis le 22 juillet dernier.
Merci Agathe pour ce reportage. Jean-Paul Nemoyato, je rappelle que vous êtes ministre de l'économie et commerce extérieur. L'ultimatum lancé par votre ministère aux expatriés pour cesser d'exercer le petit commerce a expiré. Quel bilan on peut faire aujourd'hui de cette mesure prise par le gouvernement?
J'apprécie l'attitude de la presse et de l'opinion qui est en train de suivre ce dossier avec beaucoup de rigueur. Le fait que très souvent c'est la presse qui me téléphone pour me demander le bilan, à quel point on en est. Donc je me rends compte des responsabilités que nous prenons pour faire avancer ces dossiers. Le bilan, madame, comme vous l'avez dit, à la suite de l'échéance du moratoire qui a couru du 22 juin au 22 juillet, le 25 juillet, j'avais tenu une réunion de concertation avec les partenaires socio-économiques notamment la COPMECO, les syndicats et associations de vendeurs à la place Fatima, et faisant l'évaluation, nous nous sommes rendus compte que en réalité, le grand problème qui résidait dans ce secteur de petit commerce et commerce de détail était que les textes ne disaient pas de manière claire le contenu des concepts commerce de gros, petit commerce et commerce de détail. Devant cette difficulté qui était réelle, parce que nous devrions aussi protéger les étrangers, c'est-à-dire que nous ne faisons pas de lois xénophobes contre les étrangers. Alors, le problème, il me semble qu'il était tout à fait fondé. C'est ainsi que, pour résoudre cette difficulté, nous avions créé une commission ad hoc, composée de nos amis de la FEC, de COPMECO, le cabinet, donc pour que cette commission ad hoc puisse réfléchir et définir, nous proposer une définition claire sur le contenu de ce concept. La commission avait un délai de 10 jours pour terminer ce travail de rédaction de nomenclature, mais il se fait que la commission a connu quelques difficultés. Je les ai convoqués parce que le délai de 10 jours a échu hier dimanche, et donc aujourd'hui, je les ai convoqués au cabinet, au ministère de l'économie. Ils étaient là. On a essayé de faire la lecture de ce projet de texte, mais il s'est fait que on s'était pas mis d'accord sur quelques appréhensions. Parce que par prudence, je n'ai pas voulu imposer un texte, n'est-ce pas, à mes partenaires. Évidemment, vous vous rendez compte que je suis en train de faire quelque chose, prendre des décisions relève de ma compétence. Mais pour que nous puissions prendre des précautions afin qu'on arrive à des termes qui mettent tout le monde d'accord, c'est ainsi que par courtoisie, j'ai créé cette commission au sein de laquelle nous avons toutes les composantes donc des partenaires. Aujourd'hui, ils m'ont demandé encore un délai de 2 jours pour qu'ils puissent finaliser ce projet de texte de nomenclature. Et je crois que c'est après-demain, le mercredi, août, que nous pourrons avoir ce texte que nous pourrons couler sous forme d'arrêté ministériel. Et à ce moment-là, à partir de jeudi, je vous dis que, un peu comme je venais de suivre là le point de vue que vous avez recueilli au niveau des centres commerciaux, j'ai entendu tout à l'heure que, bon, certains étrangers continuent à vendre encore en détail, mais en cachette. Le fait qu'ils le font en cachette, c'est qu'ils sont conscients de ce qu'ils font. Vraiment, madame, c'est ça le bilan que je peux vous présenter. Je ne recule pas d'un seul pas. Tout à l'heure, quelqu'un à partir de Matadi a parlé en disant que non, il ne croit pas à ça parce que ces étrangers ont leurs généraux. Non, écoutez, nous respectons beaucoup la profession de nos voyants congolais qui sont des généraux. Il faut pas les mêler dans ces histoires. Monsieur, je peux vous avouer que depuis que j'ai commencé ce travail, je n'ai subi aucune pression parce que c'est une action qui est prévue dans la feuille de route du gouvernement.
Monsieur le ministre,
laquelle feuille de route a été approuvée par son Excellence Monsieur le Président de la République.
Le
Premier ministre est en train de suivre ça chaque jour. Vous avez vu quand j'étais à Matadi, en mission de sensibilisation, il a plu à son Excellence Monsieur le Premier ministre de me suivre même à Matadi pour appuyer ce travail.
Monsieur
donc,
le ministre,
c'est un travail que nous faisons pour la gloire du peuple congolais. Je sais que nous sommes en train d'atterrir. Cette loi sera respectée, madame.
Merci, monsieur le ministre. C'est un débat. Permettez-moi de vous arracher la parole. Vous n'êtes pas seul. Il y a 2 autres invités dans cette émission. Mais une petite question avant de passer la parole à Michel Sommet. Mais pourquoi avoir pris cette décision alors que le texte n'était pas clair?
Mais non, les textes, ce sont les mesures d'encadrement, les mesures d'accompagnement. Et c'est pourquoi jusque-là, on n'a pas encore commencé à descendre par nos services sur les trains pour suivre ça comme on a évoqué tout à l'heure à la radio. C'est-à-dire que quand nous faisions pendant la période du moratoire, parce que c'était une période où nous avions une approche purement pédagogique, l'approche consistait à sensibiliser les étrangers qui s'y mixaient dans les petits commerces afin qu'ils puissent se retirer. C'était une approche pédagogique.
Merci, monsieur le ministre.
Mais dans cette approche pédagogique, nous avons par exemple à Matadi rencontré quelques Indiens qui nous ont dit oui, nous voulons bien faire nous limiter au petit, au commerce des gros et au commerce des migros, mais nous ne savons pas que par exemple quand on fait le commerce de gilettes, qu'est-ce qu'on appelle détail, qu'est-ce qu'on appelle en fait des migros et ainsi de suite. C'est pourquoi je vous ai dit que j'ai compris par la grâce à la sensibilisation que un problème c'était aussi celui qu'on dise pour chaque
catégorie.
Qu'est-ce qu'on attend par le gros, demi-gros et détail.
Merci monsieur le ministre, vous allez nous donner la signification de tous ces termes dans cette émission. Laissez-moi le temps pour moi de passer la parole à Michel Sommet. Michel Sommet, je rappelle que vous êtes directeur général de la Fédération nationale des petites et moyennes entreprises congolaises, FENAPEC. Quel bilan vous vous dressez de l'application de la mesure prise par le gouvernement qui demande aux expatriés de cesser d'exercer le petit commerce en RDC.
Merci madame. La première chose que j'aimerais dire, c'est que la loi sur le petit commerce remonte à l'année 1973. Et depuis 1973 jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas connu d'application.
Plus de 30 ans.
Plus de 30 ans plus tard. Ça veut dire que avoir aujourd'hui l'acharnement avec lequel le gouvernement, en passant, je salue Jean-Paul Lemoine, le ministre de l'Économie, se démerde pour pouvoir faire appliquer cette loi. Cela vaut déjà, à mon avis, un geste positif qu'il faudrait saluer et que je voudrais voir aboutir sincèrement. Parce que il n'est pas normal que dans un pays, les nationaux ne puissent pas bénéficier d'un minimum de protection. Mais il va se poser certainement une question.
Est-ce que c'est l'État qui protège pas les nationaux?
L'État ne protège pas les nationaux. Parce que quand on parle de la loi, c'est de la compétence de l'État et c'est la loi qui doit protéger les nationaux. Et la loi a été
votée. Et on peut comprendre par là que l'État protège plus les étrangers.
À mon humble avis, oui. Et je considère que l'État congolais a pris l'habitude de protéger les expatriés à la place des Congolais. Ça, c'est une réalité que je voudrais voir inversée aujourd'hui avec le nouveau gouvernement en place. C'est pour ça que je salue de mes deux mains disons l'acharnement avec lequel le ministre Nemoyato s'emploie à faire appliquer cette loi sur le petit commerce qui remonte à 1973. Mais il reste une chose évidente, c'est que si depuis 1973 jusqu'à aujourd'hui cette loi n'a pas été appliquée, ce n'est pas seulement parce que l'État a été trop faible ou trop corruptible dans ses relations avec les expatriés, mais c'est aussi un fait qu'il ne faudrait pas négliger. La capacité financière de nos opérateurs économiques congolais à pouvoir répondre aux besoins, c'est-à-dire répondre à la demande des nationaux, la demande de consommation. Aujourd'hui, nous savons que nous pouvons aisément acheter les ketch pour les enfants qui vont à l'école, à la rentrée scolaire, un peu grâce à l'invasion des Chinois sur le marché congolais. Souvenez-vous qu'une paire de ketchup, on l'a payé pratiquement à 10-15 dollars. Aujourd'hui, on peut l'acheter à 2-3 dollars. Ça veut dire que, quelque part, quand les étrangers ont pris en main le commerce de petits détails, ils ont été capables d'adapter leur offre au niveau du pouvoir d'achat des nationaux. Ça a été un soulagement. Les retirer, comme on va le faire, et je veux bien qu'on les retire, je souhaite aussi de vive voix, et j'ai milité pour ça. Comme on va le faire, ça va certainement occasionner un certain nombre de perturbations, il faut s'y attendre. La question n'est pas celle-là, vous m'avez posé la question de savoir quel bilan je fais. Le bilan est que les efforts sont déployés, le gouvernement l'a prouvé, je pense. J'ai vu Jean-Paul Nemoyato à Matadi, je l'ai vu plusieurs fois revenu sur la question, j'ai vu la mise en place de la commission qui est déjà là, qui est à pied d'œuvre, qui repose ses travaux à deux jours supplémentaires. Je crois que c'est une bonne chose, mais c'est ce que je peux dire. Nous ne sommes pas encore au niveau de l'exécution véritable de cette loi, parce que pas plus tard que ce soir, même pendant que je viens d'entrer avec un léger retard dans ce studio, je viens d'acheter un ballon de football pour mes enfants dans un magasin des Chinois à Kitambo et au prix de l'État, juste un ballon. Je viens d'acheter. Et ça, ce n'est pas en cachette. Ça se fait au vu, au su de tout le monde. Le magasin chinois où je viens d'acheter mon ballon est en, juste en diagonale du poste de la police.
La loi n'est pas encore appliquée.
La loi n'est pas encore appliquée. Peut-être que les cas de ceux qui se cachent se pourraient se trouver au centre-ville de la Gombe. Mais en tout cas, en passant par Kitambo, je trouve le magasin des Chinois toujours ouvert. Ils sont opérationnels chaque jour et ils sont à travers toute la ville opérationnels.
Mais est-ce que les Congolais aujourd'hui sont en mesure d'investir dans ce secteur, dans ce petit commerce?
C'est la question fondamentale sur laquelle j'interpelle le ministre de l'économie pour dire, chaque fois que je vous parle de l'urgence de la construction de l'économie nationale, en jetant un regard sévère du côté du secteur bancaire, voici le moment où vous allez comprendre l'importance que j'ai toujours dit. Parce que lorsqu'on va remettre toute la capacité du commerce, du petit commerce entre les mains des Congolais seuls, il y a des gens qui vont s'entretuer ici parce que les prix vont doubler, tripler, peut-être même, je ne fais pas le prophète des malheurs, mais je sais que il va en être ainsi. Donc ça signifie que rapidement, il faut que le gouvernement, j'espère que c'est dans les mesures d'encadrement que je n'ai pas lues, le gouvernement va s'employer rapidement à adapter la capacité, c'est ce qu'on appelle le renforcement des capacités, adapter la capacité de l'offre, la capacité opérationnelle des opérateurs économiques congolais, en matière de tautologie, pour qu'ils soient en mesure de répondre aux besoins des nationaux, aux besoins des consommateurs, sans trop de spéculation sur les prix.
Et ça, vous, Michel Sommet, au niveau de la Fédération nationale des petites et moyennes entreprises congolaises, qu'est-ce que vous faites pour aider les Congolais à se lancer dans ce petit commerce, à investir dans le petit commerce?
Je le dis avec raison. C'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, la petite et moyenne entreprise congolaise est étranglée, elle est étouffée. Quand on parle de l'entreprise au Congo, c'est une entreprise essentiellement étrangère. Que la petite et moyenne entreprise a proprement parlé, elle est étouffée, ce sont des gens qui se débrouillent. C'est vraiment l'économie du sauve qui peut que nous avons en train d'appliquer. Quand vous demandez à un petit opérateur économique congolais, une petite entreprise congolaise, d'accéder au crédit pour pouvoir importer les mêmes marchandises que les Chinois importent, les mêmes caisses qu'ils importent, les mêmes pagnes qu'ils importent, qui font fabriquer parfois à 1 dollar ou moins d'1 dollar la pièce, pour que le Congolais accède à un crédit pour l'importation de ces mêmes marchandises, c'est un problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait que rapidement on favorise qu'on favorise l'investissement des Congolais au Congo, par les Congolais, je veux dire encore une fois, pour que nous soyons à mesure d'établir un pont entre l'offre et la demande. J'ai dit la fois dernière qu'il y a l'offre et la demande au Congo se boudent, on consomme importé, on produit pour exporter, alors ça pose un problème. Il faudrait nécessairement, c'est pour ça que l'économie est à 80% entre les mains des étrangers dans ce pays. C'est une économie essentiellement étrangère qui est installée au Congo. Alors vous devez comprendre qu'il y aura beaucoup de difficultés pour que la loi 113 puisse s'appliquer effectivement, malgré la bonne foi du gouvernement. Il y aura beaucoup de couacs, il y aura beaucoup de crocs en jambes, il y aura beaucoup de difficultés et peut-être beaucoup d'énervement dans les jours qui vont venir. Mais j'encourage le gouvernement à foncer, à ne pas reculer, mais en tenant compte de cette réalité, le gouvernement doit regarder attentivement du côté de l'offre et de la demande de la monnaie pour que le secteur bancaire, lui aussi, qui est totalement entre les mains des étrangers, ne puisse pas nous obliger à échouer. Parce que dans la mesure où le secteur bancaire est totalement étranger, je crois qu'il va y avoir des règlements des comptes.
Alors, bienvenue Marie Bakoumania. Vous êtes analyste et chef du desk économie au groupe des presses Le Potentiel. Quel est le bilan que vous dressez?
S'il faut dresser un bilan à ce stade, j'éprouve des difficultés à le dresser, d'autant plus qu'on n'est pas encore à proprement parler dans la phase d'exécution des mesures d'encadrement que le gouvernement est en train de vouloir mettre en place. Je me rends compte, cela se justifie par le fait que le gouvernement est en train de courir derrière les événements. Il faut se souvenir que cette mesure, la loi date de 73, mais depuis toujours, on a vécu avec des Ouest-Africains. On parle beaucoup plus aujourd'hui des Indo-Pakistanais et des autres, mais des Ouest-Africains, des Libanais, des Indo-Pakistanais et autres ont toujours opéré au vu et au su de tout le monde, ici en République démocratique du Congo, dans les secteurs des petits commerces. Cela n'a pas ému qui que ce soit. C'est plutôt la flagrance de la présence chinoise dans des quartiers reculés qui a fait monter cette question en surface, et la forte pression exercée par les syndicats des revendeurs, des petits détaillants, qui a fait que le gouvernement a pu prendre ces décisions. Alors, La conséquence, c'est que, étant donné qu'on a agi sous la pression, on a oublié qu'il n'y avait pas justement des mesures d'encadrement. On n'avait pas encore défini, et le ministre l'a reconnu fort heureusement par honnêteté intellectuelle, on n'a pas défini à proprement parler qui est grossiste, qui est demi-grossiste, qui est détaillant. Et aujourd'hui, les différents étrangers qui opèrent dans le secteur prennent plaisir à s'engouffrer pleinement dans les brèches ainsi créées. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé au point où on tourne en dérision pratiquement une décision gouvernementale et l'on va de moratoire en moratoire, mais quand les étrangers qui viennent s'établir ici adressent des demandes de visa d'établissement en RDC, ben dites-vous, qu'est-ce qui est marqué sur leur visa d'établissement? Et on ne peut, l'État ne peut pas aujourd'hui se dédire, d'un côté on octroie des visas d'établissement à des personne pour exercer les petits commerces à l'intérieur des frontières nationales. De l'autre côté, un jour, on se réveille, on veut qu'il n'exerce plus. Mais fort heureusement aussi, de la part du gouvernement, à l'actif du gouvernement, cet effort qui est fourni pour qu'on n'assiste pas à une zaïrénisation bis. Et là, la capacité des Congolais à exercer le commerce, comme l'a souligné Monsieur Michel, c'est une affaire des politiques, c'est une affaire de politique, de volonté politique de la part des gouvernants, c'est une affaire de volonté de créer des richesses parmi les Congolais. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut valablement parler, par exemple, pour ne parler que de ces secteurs, on peut valablement parler d'un boulanger qui produit du pain, un boulanger congolais qui produit du pain en détail pour les Congolais. Je pense que c'est difficile. On a des grands producteurs du pain qui sont à la fois importateurs, grossistes eux-mêmes, semi-grossistes et détaillants en même temps, et ils sont même fabricants de produits finis. Ce sont des difficultés qui sont réelles, ce sont des gens qui sont bien connus. Les mesures d'encadrement que le ministre pourrait prendre, les textes existent, on pourra prendre d'autres textes. Mais je crois, à mon humble avis, le vrai problème, il est global, c'est la refondation de l'État, c'est le rétablissement de l'autorité de l'État. Lorsqu'on aura rétabli l'autorité de l'État, une loi de 113 sera pleinement exécutée sans que le ministre puisse se poumonner, puisse démontrer cette détermination qu'il est en train de déployer actuellement pour faire exécuter une loi de la République.
Alors aujourd'hui, on demande aux Congolais de prendre la relève de petits commerces. Est-ce qu'ils en sont capables?
Bah écoutez, les génies congolais, il est connu de tout le monde. Les Congolais peuvent en être capables, pourvu qu'il y ait des mesures d'encadrement. Et je suis heureux que M. Somoué parle du secteur bancaire.
Est-ce qu'on ne pouvait pas commencer par là?
Ben écoutez, au stade où nous sommes actuellement, il y a plusieurs banques qui sont ici, il y a des institutions de microfinance qui peuvent aider les Congolais. Moi, je pense qu'il y a plutôt des vrais problèmes d'encadrement. Si l'État peut trouver des mécanismes pour garantir les différents prêts qui pourront être éventuellement accordés à des opérateurs économiques congolais, à des petits opérateurs économiques congolais, à travers des structures comme celle de Monsieur Somoué, je pense qu'on pourrait sortir des lornières. Mais si l'on prend des mesures sans se rendre compte de l'adéquation entre les capacités réelles des Congolais à exercer le commerce et les expériences du passé, l'histoire doit nous servir toujours des repères. Je pense que nous risquons, les efforts du ministre pour ne pas opérer une zaïrénisation bis, risquent d'être voués simplement à l'échec.
Alors on va prendre pour vous bienvenue cette réaction qui nous vient de Bukavu, au Sud-Kivu.
Matumaini Franklin de Bukavu au Sud-Kivu. C'est bien de réclamer la libération du petit commerce par les étrangers, mais il faut aussi cultiver un esprit de la nouvelle citoyenneté dans les chefs de nos compatriotes commerçants qui exagèrent en fixant les prix, car qu'est-ce qui peut expliquer la grande différence de prix entre les produits des expatriés et ceux des nationaux, ou un même produit vendu par ces deux gouttes trois fois cher chez les nationaux que chez les expatriés? Les commerçants nationaux doivent être rationnels et pas chercher à gagner plus en exploitant leurs compatriotes.
Est-ce que c'est pas ce problème qui va se poser?
Écoutez, moi, je vais tout de suite tranquilliser notre compatriote. Comment voulez-vous que l'étranger, les Congolais qui exercent, je prends toujours l'exemple de la boulangerie. Lui, il achète chez l'importateur qui est en même temps grossiste, qui est en même temps fabricant de pain lui-même. Comment comment voulez-vous que celui-là ne puisse pas proposer un prix moins que le Congolais qui achète chez lui et vient retravailler pour produire du pain au niveau de son usine. Je pense que les mesures d'encadrement sont plutôt nécessaires. Les mesures d'encadrement, c'est le gouvernement qui doit les prendre dans le sens de doter des Congolais des capacités pour qu'ils puissent commercer à égalité des chances avec les étrangers.
Merci, bienvenue Marie Bakoumania. Monsieur le ministre, cette émission est aussi pédagogique. Alors dites-nous, c'est quoi, quelle est la différence que vous faites entre le petit commerce, le gros, le demi gros, voilà, dites-nous c'est quoi la différence?
Oui, c'est justement ça, en fait, les travaux qui s'effectuent maintenant au niveau de la commission ad hoc. Mais l'émission est tellement intéressante que vous avez pris Monsieur Michel Somoué, que je connais très bien. J'ai beaucoup discuté avec lui à l'université de Kinshasa. Mais au fond, que ce soit Somoué et l'autre ami qui a...
Bienvenue Marie Bakoumania.
Bienvenue. Je pense que quelque part, on ne se contredit pas. Je sais qu'ils sont entrés, chacun là où il est, à m'appuyer dans cet effort. J'ai été pendant très longtemps député, mais vous savez, madame, à quoi ça sert dans un pays de voter des lois lorsque on sape ces lois à la longueur des journées? Je pense que par respect aux députés, aux sénateurs, par respect au peuple, au nom de qui on vote ces lois, je pense que quand on est au gouvernement, il faut vraiment amener à l'application de la loi. Et ce que j'ai retenu à travers leurs interventions, quelque part, nous sommes tous d'accord que c'est une loi qui date de plus de 40 ans, 73 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 39 ans. Et que pendant toutes ces années, cette loi qui est facile à appliquer n'a jamais été appliquée. Et ce sont des convictions que j'ai partagées même quand on faisait des DIA avec M. Michel Somoué qui est là. Et aujourd'hui, il doit se sentir heureux que des idées qu'on partageait quand on était apprenant de DIA, aujourd'hui, du fait que j'ai eu la chance d'arriver là-bas, nous essayons d'appliquer ça et ça entre dans la logique, n'est-ce pas, de la feuille de route. Et qu'au jour d'aujourd'hui, madame, je pense que c'est une cause nationale que nous défendons.
Alors, monsieur le ministre,
est-ce que
je vais poser une question.
Que ça soit normal dans un pays que, en fait, quelqu'un, il est lui-même importateur, il est grossiste, il est demi-grossiste, et lui-même, il fait les détails. Et que font qu'est-ce que les Congolais vont faire à ce moment-là?
Alors, monsieur le ministre, c'est quoi la nuance entre petit commerce, gros, demi-gros?
Je dois, parce que le travail n'est pas encore terminé, je prends un exemple simple. Quand on prend un produit comme le sucre est produit à Matadi, disons dans le Bas-Congo, dans une société qu'on appelle Kwilungongo. Le gros, je vais dire, l'entreprise, il produit les sachets à partir de l'usine, donc le sucre à partir de l'usine est conditionné, il y a d'abord un sachet qui contient 5 kilos de sucre. C'est même marqué 5 kilos. Et on prend encore 10 sachets de 5 kilos, on met dans un sac. Et il y a des gens qui peuvent acheter ça en tonnes. Et donc, par rapport au marché du sucre, nous pouvons déjà considérer que quand on vend le sucre, en utilisant l'emballage de 5 kilos, de sachets de 5 kilos, ça c'est le détail. Et donc, si on considère que c'est ça le détail, et à ce moment-là, en vertu de la loi, l'étranger peut commercialiser le sucre, mais il ne peut pas le faire en sachet de 5 kilos.
Alors, monsieur, je crois que les auditeurs ont essayé de comprendre la nuance entre petit détail et gros. On va prendre pour vous, monsieur le ministre, cette réaction qui nous vient de Butembo au Nord Kivu.
Carlos Benga de Butembo, au Nord Kivu. La confusion parfaite entre grossistes et détaillants sur le marché congolais et l'incertitude de trouver des nationaux aptes à relever totalement les expatriés dans le petit commerce face aux besoins de la population sont des freins réels aux mesures gouvernementales.
Monsieur le ministre, cet auditeur pense que la confusion entre grossistes et détaillants sur le marché congolais et l'incertitude de trouver des nationaux aptes à relever totalement les expatriés dans le petit commerce sont là des freins réels aux mesures que le gouvernement a prises.
J'en arrive, madame, mais c'est parce que vous ne me donnez pas le temps de terminer. Mais tout à l'heure,
on a
un
pas beaucoup
intervenant
de temps, monsieur
a pris
le ministre.
Un exemple, n'est-ce pas, de fabrication de pain. Évitons de spéculer. Prenons une société comme IPAC. IPAC produit le pain dans son usine et il produit le pain à grande échelle. Mais vous voyez ce que l'IPAC fait, c'est ce que je voudrais encourager. Quand vous êtes au niveau de l'usine et de l'IPAC, vous voyez tout autour de l'usine, madame. C'est visible. Vous voyez, la société elle-même a pris des précautions de créer des petites tables, des étalages tout autour qui ceinturent, n'est-ce pas, l'usine. Et là-dedans, vous voyez, ce sont des petites filles, des dames qui occupent ces tables et qui vendent maintenant en détail le pain que la société produit. Et vous voyez comment ça se passe. Ce qui fait que, à la longueur des journées, vous voyez ces femmes qui vendent le pain en détail, parce que le propriétaire de l'usine ne peut pas le faire, mais à la fin de la journée, vous voyez ces dames qui vont reverser l'argent auprès, donc, en fait, de la société. En d'autres termes, et c'est ce que j'ai dit même aux Chinois quand j'étais à Matadi, je leur ai dit, vous faites comme l'IPAC, c'est-à-dire que vous allez occuper des espaces là où vous avez vos gros magasins, et tout autour, vous pouvez encadrer quelques Congolais qui vont distribuer et vendre en détail vos produits, et le soir, vous faites le compte. Donc, ce travail, je n'ai pas peur, madame. Je sais que ce sont des choses que je suis en train d'étudier avec mon staff au cabinet. C'est que je sais que ça va nous aider à corriger quand même les circuits, si vous voulez bien, les circuits de distribution.
Merci, monsieur le ministre Michel Sommé. Pourquoi ne pas se battre pour que le Congolais devienne aussi grossiste? On se limite à ce qui reste petit dans le petit commerce. Alors qu'il y a des Congolais capables de faire le gros aujourd'hui.
Madame, je voudrais d'abord rassurer monsieur le ministre Jean-Paul Moyato, pour qui j'ai beaucoup de sympathie, autant que j'en ai pour le Premier ministre Augustin Matata et pour Daniel Moukoko, vice-premier ministre du reste, parce que c'est tout compte fait, c'est mon école aussi. Donc, comme j'ai déjà dit sur Radio Okapi une fois, que j'ai confiance en ce gouvernement, je crois en ces gens, j'espère qu'ils vont faire du bon travail. Mais je le répète, mais ça ne veut pas dire que je suis distrait. S'ils font faux pas, je dirais, je ne manquerai pas avec toute la sympathie que j'ai pour eux. Et pour ce qui est de cette mesure du petit commerce, j'encourage, je l'ai dit tout au début de l'émission, j'encourage Jean-Paul Nemoyato, je le vois vraiment au four et au moulin, je le vois de tout déterminé, de toute bonne foi, ma pomme, ma tata aussi, la même chose. Donc je les félicite et je voudrais qu'ils réussissent à faire exécuter cette mesure, cette loi, et je m'emploierai moi aussi à leur apporter autant que faire se peut ma contribution pour que cela se fait. Une façon de le faire, c'est celle-ci, quand je lui dis, monsieur le ministre, faites attention du côté du secteur bancaire qui est totalement entre les mains des étrangers, pour qu'il ne constitue pas pour vous une épine dans la plante du pied. Alors, cela dit, vous me demandez pourquoi les Congolais ne devraient pas se battre pour être aussi des grossistes. J'ai dit tout à l'heure qu'il appartient, et bienvenue à répéter aussi, qu'il appartient au gouvernement, quand il est sur le secteur des politiques, il appartient au gouvernement d'encourager la construction de l'économie nationale pour que l'économie soit plus ou moins à 80-90% entre les mains des Congolais. La grande difficulté qu'on va avoir aujourd'hui pour faire appliquer vraiment cette loi sur le petit commerce et faire la distinction, comme vous le souhaitez, entre le commerce de gros, le demi-gros, de détail, c'est que l'essentiel des produits qui sont commercialisés, qui font justement l'objet de conflits aujourd'hui, ce sont des produits importés. Mais ces étrangers sont ici au Congo pour faire fonctionner leurs économies. Ils sont ici pour aspirer les ressources qui sont dans ce pays, les pomper dans leur pays et nous ramener de la camelote ici que nous devons racheter à moins cher. Nous ne serons pas capables de fabriquer les quêtes de la même qualité que les Chinois le font. c'est-à-dire à savoir adapter la qualité du produit au pouvoir d'achat. Nous n'avons pas une poussée industrielle suffisante pour que les Congolais soient à mesure vraiment de se prendre en charge, sauf si le gouvernement en fait aujourd'hui une préoccupation. Tout à l'heure, un intervenant a posé un problème en disant « mais l'éducation à la citoyenneté, si aujourd'hui on laisse le petit commerce aux Congolais, comme on le dit, est-ce que ça ne va pas créer des tensions inflatoires démesurées quelque part ?» Et il a raison. Et là-dedans, je dis qu'il relève de l'autorité, du devoir de l'État de pouvoir prendre des mesures d'encadrement efficaces et fortes. Et ces mesures doivent être des mesures sans complaisance, parce que il faudrait tenir compte qu'il n'y a pas eu, malheureusement, de révolution nécessaire, de révolution voulue pour que le Congolais soit en mesure de se bâtir une économie. Il y a un problème de construction de l'économie. Il y a donc un problème de culture des marchés d'abord. Le prix chez nous a quelle signification? Quand vous demandez à un citoyen congolais, passez par la rue, croisez n'importe qui est en train de vendre un bien sur la rue, parce que les licenciés sont sur la rue ici, il va vous donner un prix qui est 10 fois supérieur au prix réel. Vous demandez le prix d'une marchandise, j'en ai vu il y a 2-3 jours. Je suis arrivé au marché des arts ici à Royal, j'ai demandé le prix d'un bête petit produit. Le monsieur m'a dit, ce produit coûte $60, plus les détails qui devaient l'accompagner, on arrivait facilement à $110. Mais en réalité, j'ai fait ce produit-là à 10 000 francs, vous vous rendez compte. De plus de $100 à 10 000 francs. Ça veut dire qu'il y a un problème dans la formation des prix du Congolais. La culture de l'économie n'existe pas. Et il faut que le gouvernement s'y attelle sérieusement. Et une façon de s'y atteler, c'est de définir des politiques économiques viables. Jean-Paul Nemoyato a bien fait de dire que nous avons toujours discuté avec lui sur des questions économiques, pas pour nous contredire, mais on a toujours parlé dans le même sens, il le sait très bien, je ne trahis pas un secret, on a toujours parlé dans le même sens, lui et moi, et je lui ai toujours dit, et je lui ai dit même pendant qu'il était ministre de l'économie, que ton premier adversaire, ça sera la politique monétaire de la Banque Centrale du Congo, qu'il faut regarder efficacement parce que c'est là la politique de crédit. C'est la politique de crédit et la politique de supervision bancaire qui va permettre aux Congolais de se retrouver dans cet environnement. En dehors de ça, vous ne vous en sortirez pas tant que les banques sont 100% étrangères et tant que la politique monétaire de la Banque Centrale est laxiste à l'égard de ces taux usuriers que les banques appliquent. Aujourd'hui, la Banque Centrale a baissé, permettez-moi terminer par là, la Banque Centrale a baissé son taux directeur jusqu'à 7%, mais est-ce que les taux débiteurs des banques a baissé de 1 seul centime? Rien du tout. Et les banques me répondent, les taux directeurs de la Banque Centrale ne concernent pas les taux débiteurs des banques. Et nous avons des taux du jour 5% par mois. Ça n'existe qu'au Congo. Mais qu'est-ce que le ministre de l'économie va faire pour que le Congolais prenne un crédit moins cher? C'est une façon de décourager, de démobiliser, de bloquer l'activité économique par les Congolais.
J'espère que monsieur le ministre vous a compris. Il va répondre à votre préoccupation. Jean-Marie, bienvenue Marie Wakumanya. On va prendre pour vous cette autre réaction qui nous vient de Lubumbashi au Katanga.
Spécifiquement au de Lubumbashi, province du Katanga, cette loi qui interdite les petits commerces aux expatriés est une discrimination. Parce qu'il y a celui qui vient en RDC pour débiter sa vie. Exemple, nous les Congolais dans d'autres pays.
Est-ce une question de discrimination?
Non, pas du tout. C'est une question d'intérêt national, hein, parce que je comprendrais mal qu'un Chinois ou un Français vienne ici chez nous pour nous vendre de la bière fabriquée sur place. C'est tout à fait inacceptable et je pense que il faut plutôt encourager le gouvernement à poursuivre sur la même lancée, mais lui demander également de prendre des mesures d'encadrement réalistes. Et par là, je veux entendre les regroupements de ces petits commerçants, de ces petits détaillants. Il faut que le gouvernement arrive à encourager et parfois même à obliger aux petits détaillants de se retrouver dans des structures d'encadrement et des regroupements tels que celles de M. Somoué et autres, les syndicats, les structures d'encadrement des petits revendeurs. À ce moment-là, on va non seulement les fiscaliser, on va également les encadrer et les aider à évoluer comme on voit partout ailleurs. On a des exemples au Ghana et dans d'autres pays où l'encadrement des détaillants, l'encadrement des petites et moyennes entreprises est très développée et ça produit des résultats encourageants, ça produit des richesses et ça produit des développements.
Alors, on va prendre deux réactions rapidement des auditeurs. Chaque Moua Galoussa Edouard de Goma dit ceci. C'est mieux d'interdire aux étrangers d'exercer le petit commerce en RDC, mais notre gouvernement doit également penser à promouvoir le petit commerce aux Congolais, car ils sont souvent découragés par nos services qui exagèrent dans les tracasseries. Et il y a une multiplication des services aux frontières, aux ports, aux aéroports en RDC qui parfois perçoivent des taxes et impôts sans délivrer les quittances. Bienvenue.
Là c'est vraiment mettre le doigt sur la plaie, hein. Celui qui a fait cette observation a mis le doigt sur la plaie dans la mesure où il y a trop de taxes, il y a trop d'impôts, tue l'impôt. Et en République démocratique du Congo, c'est comme un sport national, multiplier les impôts. Je vois, par exemple, là où je travaille, il y a le ministère de l'économie qui vient, il y a le ministère de l'information et presse, il y a la DGRAD, il y a la DGI, et il y a comme ça une multiplication des taxes à tel point que les opérateurs économiques souvent sont asphyxiés. Et quand ils sont asphyxiés, dites-vous, ils vont dans l'informel. Quand ils sont asphyxiés, ils s'adonnent à ne pas payer les impôts. Et là, c'est l'État qui est perdant. Et là, c'est une obligation de la part de l'État de réviser sa politique dans le secteur et d'encourager, comme je l'ai dit, je le redirai, d'encourager les regroupements. Les regroupements va aider à ce que l'on puisse amener à un meilleur encadrement.
Alors, une autre réaction qui nous vient de Bruxelles en Belgique. La RDC en pleine campagne d'assainissement du climat des affaires, sortir des placards une loi qui date de 1973, le ministre met de l'eau au moulin de tous les services de l'État qui sont habitués à tracasser les commerçants. Je pense que cette loi n'est pas un signal positif qui améliore le climat des affaires. Au contraire, des contrôles des agents de l'État au pouvoir indéfini vont le pourrir davantage. La Fédération des entrepreneurs congolais doit y réfléchir. Il rejoint un peu la réaction de cet auditeur de Goma.
Non, moi je pense qu'il se trompe. Il n'est pas le climat des affaires, ce n'est pas l'anarchie. Quand on veut améliorer le climat des affaires, on ne doit pas s'adonner à l'anarchie. Et je crois que la loi, il faut la respecter. Elle existe. La loi, elle est dure, même si elle est mauvaise, il faut savoir la respecter. Et cette loi, elle va dans l'intérêt des nationaux. Nous devons, en tant que Congolais, nous ne pouvons que l'encourager.
Merci, bienvenue Marie Vakoumania. Monsieur le ministre, il nous reste au moins 2-3 minutes pour mettre fin à cette émission. Alors, est-ce que vous pensez que si aujourd'hui les expatriés laissaient le petit commerce aux Congolais, sont-ils en mesure ou capables de prendre la relève?
Merci beaucoup, madame. D'abord, je dois vous remercier de m'avoir associé à cet échange, parce que vraiment, en suivant les interventions des uns et des autres, donc à plus de 80%, tout le monde ne fait que contribuer, n'est-ce pas, aux mesures d'accompagnement qu'on est en train de prendre. Je ne peux pas vous dire combien j'ai eu l'occasion d'avoir des idées que je n'avais pas avant pour intégrer dans les mesures d'accompagnement. En fait, j'ai beaucoup aimé Bienvenue tout à l'heure. Il a beaucoup aimé.
Monsieur le ministre, s'il vous plaît, on n'a pas beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de temps, monsieur le ministre. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question? Est-ce que les Congolais sont aujourd'hui capables de prendre la relève si les expatriés leur laissaient le petit commerce?
Oui, je pense que oui, parce qu'en fait, tout à l'heure, le problème de prix, que non, il faut pas qu'on abuse. Mais il y a la loi sur la marge bénéficiaire. Donc, la loi dit à des termes clairs que quand on a acheté des produits auprès d'un grossiste, quelle est la marge qu'on doit ajouter, c'est autour de 10%. Et donc, les services de l'économie vont toujours passer pour contrôler, en fait, la marge bénéficiaire que les détaillants vont mettre à partir du prix d'achat auprès des grossistes.
Merci, bon, monsieur le ministre.
Il y a aussi les efforts que le gouvernement est en train de faire, parce qu'il y a une cohérence dans la politique du gouvernement.
En un mot, monsieur le ministre, on a plus beaucoup de temps.
Tout à l'heure, on a parlé des problèmes des banques ou des crédits, mais je vous informe que le gouvernement a pris des dispositions pour réhabiliter la Sofidé. Il y a un plan de microfinance qui est en chantier, qui est en œuvre. D'ici là, le gouvernement va créer une structure de microfinance.
Merci.
Qui va justement encadrer des opérateurs économiques, donc des petites tailles.
Il y a aussi des structures. Monsieur le ministre, merci. Je n'ai pas le temps de vous donner la parole pour conclure. C'est la fin de l'émission. Merci à toute l'équipe de dialogue entre Congolais. rediffusion de l'émission demain, 4h15, heure de Kinshasa. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radioaucapi.net. Bonsoir chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.